Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table, comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat avec la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale. Pierre Hiverna, bonjour.
Bonjour Caroline.
C'est vous qui dirigez cette plateforme des cultures du goût Alimentation Générale et chaque dimanche, en fin d'émission, vers 12h25, vous nous proposez la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler des protéines alternatives.
À tout à l'heure. Bonjour Natacha Trio.
Bonjour Caroline.
Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui dans la Madeleine ?
Aujourd'hui, le peintre Gérard Fromanger.
À tout à l'heure, 12h15. Et tout de suite, direction Montpellier, où le centre d'art contemporain La Panacée propose en ce moment un événement à la fois artistique et culinaire, sous la forme d'une drôle d'exposition intitulée Cookbook. L'idée des deux commissaires, le directeur du lieu Nicolas Bourriaud et le globe-trotteur culinaire Andrea Petrini, a consisté à sélectionner 25 chefs cuisiniers et 20 artistes, à les mélanger, à saupoudrer le tout de convivialité, de partage et de jeu pour explorer les territoires communs de la cuisine et de l'art. Résultat, les chefs malaxent vidéos, sculptures, installations et les plasticiens passent au fourneau. L'expérience avait été menée une première fois en 2013. Cette nouvelle édition a intégré le fait que l'image culinaire s'est banalisée, avec Instagram notamment, que la nouvelle génération n'hésite plus à travailler directement la matière comestible et que les cuisiniers sont plus sensibles à la cuisine nature. Visite sur place en compagnie du critique gastronomique Andrea Petrini donc. L'exposition commence par un film performance de Zoé Williams, sorte de grand banquet voluptueux.
C'est en tout cas peut-être l'œuvre la plus provocatrice en quelque sorte, la plus épidermique. On y voit plein de jeunes femmes s'attabler dans une sorte de repas festin qui...
Orgiaque, on pourrait dire,
absolument, vous m'avez volé les...
trop tôt.
Et ce qui est bien, ce qui est assez troublant, c'est l'utilisation du corps, ces mélanges, ces extensions des fruits, des jus, des saucisses, des légumes, la perte, la dépense. Et il y a un côté très performatif, il y a de la nudité. Il y a l'exposition du corps, il y a une impudeur. C'est quelque chose qui peut me rappeler quelque part des performances de Derek Jarman, c'est cinéaste, écrivain, performer anglais. C'était lui qui avait découvert il y a 30 ans Tilda Swinton. C'est lui qui avait fait par exemple le film Caravaggio. Vous vous souvenez ? Et il y a un côté que j'aime bien relier à cette impudeur des performances plutôt de l'école anglo-saxonne, c'est entre les années 70 et les années 80, c'est cette sortie de la performance art.
Est-ce que cette performance filmée de Zoé Williams donne le ton de l'ensemble de l'exposition qui, on va le dire tout de suite, porte sur les rapports entre art et cuisine ?
Oui, elle donne le ton et elle aborde son sujet full front.
Oui, on est dedans.
On est totalement dedans et c'est pour ça qu'en rentrant, on en prend plein la gueule tout de suite. Et surtout, j'ai trouvé ça drôle de démarrer avec l'œuvre la plus controversielle quelque part, la plus impudique, celle qu'il faut mettre... La vision n'est pas conseillée aux mineurs de moins de, je sais pas.
Oh, pour l'instant, on est devant, on ne voit pas
mais
des
savez,
choses qui sont
savez,
si choquantes.
Vous savez, Caroline, le monde de l'art et la société dans laquelle on vit prend une sorte de retour du bigotisme, de la
pruderie. C'est vrai, enfin, là,
on voit cette femme, les yeux...
Elle a un voile sur la moitié
on sait pas, on
du
sait
visage
pas.
Allemand.
C'est,
c'est pour bien faire comprendre aux auditeurs, c'est une ambiance assez orgiaque, tout à fait.
On dirait presque un peu bondage, quelque part.
Ah oui, là vous allez loin, effectivement. Alors, on va changer de salle. Il est midi quand même, les familles nous écoutent. Allons-y, oui. Bon. Passons dans la salle suivante. Donc là, on arrive dans une grande salle. Et ça tombe bien parce qu'il y a plein d'enfants. Et il y a une petite fille qui s'est déchaussée. Et qui est en train de marcher sur une œuvre. Donc, comme quoi les œuvres se goûtent, se palpent, se touchent. Là, il s'agit de quoi exactement ce qu'on voit là ?
Il s'agit de l'œuvre d'un jeune et très talentueux cuisinier brésilien, Alberto Langraf, qui a officié pendant des années à São Paulo. Elle avait un restaurant qui s'appelait Épices et qui, depuis même pas un an, abandonné São Paulo pour investir Rio, dans un restaurant plus en contact avec la nature, avec son propre jardin. On travaille sur la sustainabilité, sur les produits, sur le sourcing local. Et là, c'est un garçon qui est cuisinier de profession, mais avec un vrai tempérament artistique. Quand je l'ai appelé une nuit sur WhatsApp et lui ai expliqué un peu le concept de l'expo, il a tout de suite dit « je vais faire une chose, je vais essayer de retranscrire les sensations que j'imagine les clients ressentent lorsqu'ils viennent dans mon restaurant ». Mais comment ça? On marche, il y a...
Il y a cinq modules, hein,
cinq
qui
modules
sont destinés à être foulés, pieds nus, ou donc en chaussettes, comme les enfants là, qui sont sous nos yeux.
Oui.
Et on a des sensations extrêmement différentes, parce que...
comme une sorte de perte d'équilibre, quand on rentre...
Il y a un ventilateur, il y a de la mousse.
Voilà.
Et donc, c'est effectivement essayer de procurer les mêmes sensations que celles d'un plat.
D'un confort, parce
d'un
qu'un
confort.
Plat... peut provoquer de l'inconfort, un plat peut, voire doit déstabiliser, un plat doit provoquer des sensations, doit instiller un minimum de réflexion. Un plat n'est pas seulement quelque chose qu'on déguste et qu'on apprécie d'une manière très épidermique.
Alors on continue notre visite vers une œuvre d'un artiste et chef, et plutôt chef d'abord, qui est parallèlement artiste,
oui,
qui est un chef
et là,
turc.
Et on passe de l'orgie romaine au porn, moderne.
C'est ça. Bah, c'est quand même, c'est aussi, il faut le dire, Cookbook, c'est donc la deuxième édition. La première avait eu lieu il y a 6 ans, en 2013.
Ouais.
C'était à Paris, là on est à Montpellier. Vous l'avez délocalisé, c'est formidable. Mais c'est aussi une exposition qui part de tous les changements qui ont eu lieu en 5-6 ans, disons,
oui,
et en particulier de la place considérable d'Instagram et donc du visuel.
Bien
et
sûr.
En particulier le foot porn, effectivement,
oui,
qui est constant dans les... Donc là, on est face à cette construction d'images. Alors, c'est plein de petits carrés, je ne les ai pas comptés, mais disons qu'il y a une cinquantaine de carrés représentant toutes de la pâte rouge, molle, malléable. Et puis au milieu, un écran avec un film et on voit des poils se faire épiler.
Oui.
Alors, Andrea Petrini. Là, j'ai fait la description vraiment terre à terre.
C'est quand même un film porno quand même.
Ah d'accord.
Il y a
vous voulez voir du porno partout, voilà.
Oui. Simplement, Maksut Askar, qui est un cuisinier formidable à Istanbul dans son restaurant néo-local, il se remémore de quand il était petit et sa maman se dépilait. Et alors il y avait tout un rituel, il y avait le rituel de la cire, il fabriquait sa cire liquide, etc. Mais cette cire qu'il fallait préparer tout doucement, etc., pour lui avait quelque chose du caramel. Et d'ailleurs, et on le voit même...
Mais la cire orientale, elle est vraiment, bon, c'est à partir de miel, de sucre,
voilà,
donc ça pourrait presque se manger, mais c'est très collant aussi aux doigts.
Voilà. Et lui, régulièrement, fauchait un bout de cette cire à sa maman, et le mangeait, il disait... Pour moi, c'était comme du caramel. D'ailleurs, dans la vidéo où l'on montre la fabrication, il y a déjà la sensualité du geste, la sensualité du frissage, cette pâte collante, sucrée. Et je dis à plusieurs reprises, « Mam, can I have some more? Can I have some more? »
Est-ce que je peux en avoir plus? C'est un peu une madeleine hein, pour
ouais,
lui.
Ouais,
hein,
c'était ça, c'est madeleine proustienne.
On voit goûter, effectivement,
oui,
avec un geste très sensuel.
Très, très, très,
très sensuel.
Ouais,
bon.
Ouais.
Et si on allait goûter, nous aussi, parce que je vois là-bas dans cette immense salle un stand
ouais,
de glace.
Oui.
Alors, des glaces un peu particulières, puisque c'est l'artiste David Belloula qui ouais, propose ça. C'est un chef ou un artiste, puisque vous mélangez tout.
Alors,
hein, donc,
David, c'est un artiste.
D'accord, il n'est pas du tout chef.
Non, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la cuisine et qui est très copain, lui aussi, d'un chef, Daniel Barnes, qui précédemment avait travaillé chez Nomal, avait travaillé au Fat Duck, avait travaillé au laboratoire de recherche du Momofuku de David Chang, et ensemble, ils ont conçu une nouvelle gamme de glaces. Pas tout à fait ordinaire.
On s'approche. Des gens qui sont en train de goûter et de commenter d'ailleurs. Bonjour. Alors vous avez 4 parfums.
Oui, nous avons rivière, terre, bois brûlé et fumée.
Rivière, terre, bois brûlé et fumée.
Oui.
Donc je commence par la rivière.
Ça c'est sa main. On peut imaginer des algues.
On peut imaginer des algues.
On peut imaginer surtout des œufs de poisson.
Allons-y sur la terre.
Voilà, après les ingrédients, du coup, on a justement, vous parliez d'algues. Il y a de la poudre d'algues justement dans, dans l'ensemble des ingrédients. Pour la terre, on a par exemple des champignons.
Oui. Voilà, ouais, si je vais vous dire, ça, c'est un goût de pomme,
au thé. Voilà, il y a différents arrangements qui permettent de recréer des saveurs qui nous évoquent.
C'est vraiment un champignon sylvestre, mais il y a un côté. Il n'y a pas que la dimension forêt, retour de la forêt, les champignons. Hein. Il y a un côté vraiment terre-terre. Je m'imagine presque avec l'argile d'André Roublieff de Tarkovsky. Tu vois, c'est cette argile un peu liquide qui tache, qui colle.
Intéressant. Bois brûlé, qu'est-ce qu'on a dedans ?
Il y a déjà l'encre de sèche, sans doute. Enfin là, je vous dis, parce que je n'ai pas le détail épars. Hein. Encre de sèche déjà pour la teindre. Il y a du foin brûlé aussi. Et sans doute le tabac, parce qu'il y a du tabac aussi, et je pense qu'il est dans celle-ci.
La fumée, c'est étonnant. Hein. On a vraiment l'impression de manger un âtre de cheminée.
Oui.
Étonnant.
Mais pour le coup, c'est réussi.
Eh bien, merci beaucoup.
Il y a une dimension presque un peu vanillée dans la fumée, vous ne trouvez pas ?
Non, je sens vraiment la cheminée, moi.
Oui. Et j'aime beaucoup ça.
Allez, on continue la visite avec vous, Andrea Petrini, et vous nous emmenez. On vient de goûter des glaces. Mais vous avez choisi, pour ce qui suit, de nous montrer un film d'un hamburger qui parle.
C'est une œuvre de Charlie Malga, une vidéo avec un hamburger, une masse de viande hachée crue qui parle et qui évoque une vision du monde avec ses interrogations existentielles, avec cette voix légèrement auto-tunée, modifiée. C'est très drôle.
De toute façon, c'est très ludique dans l'ensemble. Hein.
Oui.
C'est très ludique parce qu'on est, y a des performances filmées, y a de quoi goûter, on peut marcher, on peut humer aussi. Par exemple, cette œuvre-là de Esben Holmboe-Bang.
C'est un jeune 3 étoiles Michelin à Oslo, le restaurant Maimo. Et lui, il a réalisé cette sorte de sérigraphie qu'on peut gratter.
Avec des couleurs différentes.
Avec des couleurs différentes.
On gratte et on sent.
On est entre la prairie, la forêt, la montagne. C'est vraiment son univers mental et son paysagisme à lui.
Alors, on poursuit notre visite avec vous, Andrea Petrini, dans cet endroit qui est la panacée. On est au cœur de Montpellier pour visiter cette exposition extrêmement savoureuse et drôle qui est Cookbook. Et vous allez nous emmener vers, je crois, une sorte de petit monticule, une installation là aussi, de boîtes de conserve, des pâtés réalisés par... Élise Caron, elle a installé des boîtes de conserve de pâté, mais qui sont du vrai pâté à l'intérieur.
Du vrai pâté.
Vous pouvez même les manger, en fait.
Ah, on peut même en prendre. L'histoire du vernissage, elles étaient en pleine science des dégustations. Pâté cochon gingembre, pâté sanglier, pâté lapin et autre chose. Et c'est très drôle de voir un artiste s'essayer à une autre technique artisanale et créer ses propres pâtés. Et en plus, les pâtés sont également en vente. Certains jours désignés, par exemple, il y avait la vente unique le 23 mars 2019. Donc on pouvait acheter, on pouvait...
Vous savez quoi, Andrea Petrini ? On va en prendre une et puis on va aller s'installer dans un petit coin le temps d'écouter la Madeleine de Natacha Triou pour goûter un des pâtés d'Élise Caron, par exemple.
On peut le faire, oui.
Allez, à tout à l'heure, alors. On peut le faire. Alors, notre Madeleine du jour, Natacha, je ne sais pas s'il aime la cuisine, en tout cas c'est un très grand artiste, on reste dans l'art donc.
Oui, puisqu'on écoute l'un de nos grands artistes, Gérard Fromanger. Dans les années 60, le peintre a été l'un des chefs de file de la figuration narrative, un mouvement qui a bouleversé la peinture. Alors, il m'a d'abord raconté que sa Madeleine à lui, ce qui le faisait trembler de bonheur et qui stimulait le plus sa mémoire, c'était les cartes postales des peintures du dimanche. Elle lui rappelle à chaque fois son père, un peintre amateur. Mais des cartes postales, ça ne se mange pas. Alors voici le souvenir gustatif de Gérard Fromanger.
Je me rappelle le poulet rôti que faisait le dimanche ma maman. Oh, alors ça c'était une fête extraordinaire. Ah oui, ça sentait bon depuis une heure avant. Ça sentait le poulet qui rôtissait dans le four. De temps en temps, elle l'ouvrait pour nous le montrer ou pour l'arroser. Alors on attendait ce moment, c'était avec des marrons à Noël ou des petites pommes de terre sautées. C'était merveilleux. C'est toute une cérémonie. D'abord, à chaque fois, le dimanche, je disais, est-ce que ça vous va, les enfants, un poulet rôti ? Alors qu'on savait bien qu'il allait arriver, c'était comme ça. Mais pour elle, à chaque fois, c'était nouveau. Puis elle nous demandait si on était d'accord. C'est oui, maman, formidable, on adore ton poulet, etc. Alors elle allait choisir au marché, c'était en Normandie, à Houlbec-Cocherel, dans l'Eure. Alors elle choisissait son poulet, elle revenait, elle nous le montrait. Elle nous montrait le poulet, elle dit, voilà, je vous ai trouvé un beau poulet. Oh oui, maman, il est magnifique. Bon, puis alors elle commençait à larder un peu, à lui mettre de l'ail dans le cul, dans le fion. Elle l'entourait d'oignons, de petites pommes de terre qui rissolaient, etc. Pof, elle mettait ça au four. C'était un vieux four dégueulasse et pourri qui fumait. Oh, alors c'était merveilleux parce que, du coup, on avait tous les parfums du poulet qui rôtissaient grâce au vieux four. Il était mal fermé, il était un peu bancal. C'était comme une vieille bagnole d'occasion. Mais vraiment, je me le rappelle très bien tout à coup. De temps en temps, elle allait l'ouvrir. Elle disait, venez voir les enfants. Alors, elle tirait un petit peu l'étage du four. Elle nous montrait le poulet qui commençait à rôtir, quoi, à roussir, à bronzer. Et qui avait des petites gouttelettes de chaleur. Et puis alors, hop, elle prenait une petite louche et hop, elle l'arrosait, c'est-à-dire un bruit. Elle arrosait son poulet. Et hop, elle le remettait au four. Et vite, ça refumait parce que l'eau faisait son effet d'humidité. Pas longtemps. Et hop, ça redevenait sec et ça fumait de nouveau. Et puis à la fin, elle disait, les enfants à table, hop, c'était l'heure, fallait manger le poulet, alors fallait pas tarder pour pas qu'il refroidisse. Et puis bon, ben, elle sortait son poulet, présentait ça sur un joli plat avec quelques feuilles de salade, il fallait plusieurs couleurs, il y avait une mousse de tomate pour avoir un peu de rouge, un peu de vert, tout ça. Ah oui, elle était très très artiste au fond.
Tout le monde le savoure quand arrivent les beaux jours, ce petit bonheur en tranche, le poulet du dimanche.
Alors celle-là, elle est inoubliable, hein, la Madeleine de Gérard Fromanger. Merci beaucoup Natacha Triou.
Merci.
On va repartir à Montpellier pour poursuivre notre visite guidée de l'exposition Cookbook en compagnie de l'un des deux commissaires, Andrea Petrini. Alors on a laissé tomber les glaces, Andrea Petrini, on vous retrouve juste après avoir dégusté un petit pâté, alors pas en ce qui me concerne parce que je mange pas de pâté, et vos origines italiennes, oui. Andrea Petrini, font que naturellement vous allez nous emmener vers une installation de Riccardo Camanini.
Qui est un sourduet, qui est probablement l'un des deux, trois plus importants cuisiniers italiens, c'est le seul cuisinier à qui Alain Ducasse a rendu un énorme hommage. Alain Ducasse a eu l'occasion de goûter un plat de Riccardo Camanini. C'est le top du minimalisme. C'est mieux qu'une robe de Margiela. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien enlever. C'était des spaghettoni, du beurre et de la levure de bière. Et c'était le plat parfait. Et Alain Ducasse a été tellement frappé par ce plat qu'il a mis à la carte dans son propre restaurant au Plaza Athénée à Paris pendant l'hiver, bon, il a rajouté quelques truffes blanches et maintenant il fait partie prenante de la carte du Louis XV. C'est la première fois qu'un plat de quelqu'un d'autre rentre à la carte du Louis XV de Alain Ducasse. C'est quand même, ça arrive une seule fois dans la vie, je crois, non? Et là, et Riccardo Camanini a réalisé une sorte d'hommage à la mozzarella. Ce sont des enveloppes des papiers qui ont été construites pour avoir cette dimension de la mozzarella, mais qui est un peu comme une sorte de météorite. Il y a à la fois la douceur lactée, et d'ailleurs elle baigne dans les liquides de fermentation de la mozzarella, et en même temps il y a cette dimension météorite granitique inquiétante, la météorite tombée du ciel.
Oui, on a vraiment l'idée quand on la regarde, en plus avec son relief, ouais, d'une très 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 grosse mozzarella. D'ailleurs c'est intitulé « Jamais vu autant de mozzarella ».
Ouais, c'est pas bon, c'est très poétique.
Alors celle-là, on va pas la goûter, celle-là non, ne se mange pas. En revanche, l'artiste qui suit a créé des œuvres à partir d'aliments qui se mangent, mais ces œuvres sont en fait des habits.
Ce sont des habits.
Donc on voit des mannequins qui porte un jean et un gilet, qui une robe à côté, on voit même des bottes réalisées en pelure d'oignon.
Des bottes en pelure d'oignon, un gilet collection homme,
à avec partir des piments,
des piments,
oui,
jaunes, des piments d'Espelette, mais canadiens, et cette robe un peu années 30, je trouve.
Oui.
Un peu Charleston.
Absolument.
Avec comme des feuilles de la forêt, on dirait presque des feuilles d'été pliées. Et tout ça, c'est vraiment le travail artisanal, comme les couturières d'antan, le soir après le service, jusqu'à tard dans la nuit.
Et c'est l'œuvre de Colombe-Saint-Pierre.
Colombe-Saint-Pierre, qui est un peu l'aubergiste du troisième millénaire, dans un petit village perdu au milieu de nulle part, les Bic, à 6 heures de route de Québec City.
Et sa robe est en feuille de thé.
Une feuille de thé.
Et les feuilles de thé. Thé. Et en fait, est-ce qu'il y a une dimension politique, dans la mesure où on peut penser que c'est du recyclage et donc de l'anti-gaspillage
chez cette
chef Colombe-Saint-Pierre?
Et la
chef japonaise qui est derrière
Shio Kanzaki,
chef japonaise, des pelotes, elle aussi, à partir d'aliments.
Oui, chef japonaise naturalisée en France depuis belle lurette, puisqu'elle a travaillé il y a presque pendant 10 ans avec Mauro Colagreco, Mirazzura. Et elle est maintenant depuis un an et demi à Paris, au restaurant Virtu. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé toutes les pelures des légumes qu'elle a ramenées chez elle le soir après le service au restaurant. Et en travaillant avec cette technique japonaise, elle a fait des teintures.
C'est très beau, hein.
C'est très beau.
C'est très beau et c'est vraiment comme des pelotes de laine. D'ailleurs, elle l'a disposé sur une sorte de table des années 50, hein, on dirait, avec des tiroirs ouverts. On a des boules de différentes tailles et de différentes couleurs. C'est vraiment une œuvre esthétique,
oui,
hein, de cette chef.
La chose qui nous semble intéressant, et je crois que c'est un peu ce qu'on ressent quand on vient voir Cookbook, c'est qu'on ne peut plus faire la différence, on ne peut plus dresser des frontières. Celui-là, c'est un artiste, celui-là, c'est un cuisinier. Si on n'avait pas joué le jeu, les francs-parlés, on vous avait tout dit, on aurait pu dire que la plupart des œuvres qu'on vient de voir, c'était toutes faites par des artistes. Alors que c'est, et on voit même des artistes qui vont vers la consommation alimentaire, Davide Balluna avec ses glaces, et on voit des chefs qui s'interdisent presque toute possibilité de consommer l'œuvre de manière alimentaire, on ne la mange pas, on ne peut pas se l'approprier oralement.
Andrea Petrini, vous disiez tout à l'heure que cette exposition était donc la deuxième et que vous aviez réfléchi à ce qui avait changé par rapport à la première expérience. On évoquait Instagram et l'importance du visuel. Est-ce que vous tenez compte aussi de l'évolution des tendances, c'est-à-dire des tendances alimentaires, des modes alimentaires, du végétarien aujourd'hui et de tout ce qui va avec?
En 2013, lorsqu'on avait réalisé avec Nicolas Bourriaud à l'École des Beaux-Arts la première édition, on sortait des 15 ans, grosso modo, d'énorme influence de la cuisine espagnole. Et on rentrait juste dans cette vague de la cuisine nordique, donc de la cuisine nature, une cuisine beaucoup, tout aussi travaillée, mais beaucoup plus sensible aux produits de la nature et moins laborantine. On est encore totalement dedans, dans cette dimension presque trop nature, à mon avis, aujourd'hui. Mais on vit d'autres choses. Entre-temps, l'essor d'Internet a fait que l'information circule à une vitesse hypersonique, mais on a perdu également, et heureusement, cette naïveté, comme on pouvait concevoir la cuisine nature comme un retour aux vraies valeurs, alors que pas du tout. On ne parle pas d'un retour au passé parce que c'était mieux à l'époque d'antan. On a perdu cette naïveté, cette fausse conscience de la naïveté. Et là, par exemple, l'œuvre, on voit Best Copy Shop, c'est l'œuvre collective des 3 cuisiniers autrichiens, peut-être les plus radicaux de cette expo, qui se sont réunis sous le nom de Elfie Boy Band, comme un vrai boy band, et parallèlement à leur propre activité dans leur restaurant, régulièrement ils organisent des performances assez provocatrices. Et là, par exemple, ils ont construit
une sorte de cabane,
des cabanes
en polystyrène, hein, en bois et polystyrène jaune, dans laquelle on va entrer.
On va rentrer et on peut imprimer nous-mêmes les catalogues de l'expo avec leurs collaborateurs. Ils ont créé des documents sur l'expo, leur propre vision de l'expo, une vision très désacralisante, très provocatrice, très iconoclaste, très drôle.
Et à d'ailleurs, partir de là, on peut imprimer son propre catalogue.
Voilà. D'ailleurs, Ils sont très conscients de la force de la communication. Ils ont même réalisé des faux stickers. Voilà, par exemple, on a
du guide Michelin 2019.
Mais avec 4 étoiles.
Avec 4 étoiles.
On a Faux Millau 2019, sponsorisé par Russian Excess. Et il y a une vraie dimension politique, une vraie totalement assumée.
Bon, on va finir dans cet endroit en imprimant notre propre catalogue. Merci beaucoup,
merci à
Andrea Petrini.
Cookbook, c'est donc à la Panacée à Montpellier jusqu'au 12 mai. Pierre, du steak végétal ou du foie gras à base de plantes, c'est de ça que vous nous parlez ce matin ?
Eh bien oui, vous avez peut-être même vu que dans l'exposition Cookbook, il y a un certain nombre de ces sujets qui passionnent les artistes. Il y a aussi le lait au caviar d'algues et la viande in vitro, tout ça sous le vocable les protéines alternatives. Alors vous allez me dire, tout ça reste encore un truc de chercheurs de la Silicon Valley qui ont vu trop de films d'anticipation.
Ah c'est vrai, j'allais vous le dire.
Eh bien vous n'auriez pas eu tort, voici quelques années où les investisseurs regardaient ces projets avec circonspection. Mais entre-temps, il s'est produit plusieurs événements économiques de taille. D'abord, l'arrivée en 2017 de trois stars de l'investissement, j'ai nommé Bill Gates, Richard Branson et, plus inattendu, Leonardo DiCaprio, qui annonce avoir mis 17 millions de dollars sur la table de Memphis Meats, une start-up qui entend mettre en phase industrielle les recherches sur la viande cellulaire. Lesquelles recherches sont menées depuis longtemps par un labo aux Pays-Bas qui a pris pour base une technologie que l'on utilise en chirurgie pour les grands brûlés. Celle-ci consiste à prélever un bout de la propre peau du patient, de la cultiver pour qu'elle se développe en laboratoire, avant de pouvoir la greffer sur sa blessure. Et si on peut cultiver de la peau humaine, sûr que l'on peut le faire avec un muscle de bœuf. Bon, d'accord, vous me direz, avant de fabriquer des steaks au kilomètre au prix du bœuf sur pâte, on est loin de pouvoir satisfaire la demande. Eh bien, là encore, c'est effectivement ce qu'auraient dû normalement penser les dirigeants d'une entreprise incroyable qui s'appelle Tyson Foods et qui est tout simplement le numéro 2 de la viande aux États-Unis et le premier exportateur mondial de bœuf américain, du vrai bœuf. Eh bien, figurez-vous, Caroline, que cette année, par un incroyable retournement de situation marketing et d'analyse de ce que sera la consommation de bœuf à moyen terme, Tyson Foods est devenu le premier investisseur dans les sociétés produisant de la viande cellulaire. Et quand on est présent dans 122 pays dans le monde, il est fort peu probable que l'on bâtisse une telle stratégie au doigt mouillé.
Ok, Pierre, il y a les ersatz de viande de bœuf, mais il y en a d'autres, des protéines alternatives.
Effectivement, Caroline, il y en a d'autres, mais disons que je parlais de celle-là parce que c'est la plus symbolique. Pour le reste, si l'on en croit la Californienne Olivia Fox Caban, qui est chef de file de l'Alliance internationale pour les protéines alternatives, je cite... En 2018, des dizaines de sociétés se sont créées dans ce secteur et pour chaque société qui cherche un financement, il y a deux ou trois investisseurs. Et d'ajouter qu'elle n'a jamais rien vu de tel dans la Silicon Valley. Alors pourquoi un tel engouement économique ? Eh bien tout simplement parce que les produits végétariens des années 90 avaient un défaut majeur, leur goût très approximatif. Or aujourd'hui, de l'avis éclairé de viandards patentés...
Dont vous êtes bien sûr.
Dont je suis bien évidemment, les burgers américains fabriqués par la société, la bien nommée Beyond Meat, donc au-delà de la viande, ont même le sang qui dégouline du steak qui par ailleurs est 100% végétal. Et l'illusion faisant le larron, les flexitariens affluent...
Alors les flexitariens, c'est ceux qui mangent moins souvent de la viande mais de meilleure qualité.
C'est ça, et ils font exploser les ventes, et dans la Silicon Valley, nombreux sont ceux qui pensent que ce type de produit sera la norme dans les 5 années qui viennent. Et si l'on ajoute que 2 mastodontes de l'agroalimentaire viennent d'annoncer également le lancement de produits du même acabit, on est en droit d'imaginer que Leonardo DiCaprio avait vu juste.
Merci Pierre Hiverna, on retrouve évidemment cette chronique sur le site des Bonnes Choses et sur le site d'Alimentation Générale. Les bonnes choses se poursuivent en réécoutant en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Aïgoui Chichkoyan, Stéphanie Villeneuve, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis à la réalisation et le technicien Alexandre Abergel qui était avec moi à Montpellier vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzmann.